bien voilà, je suis heureux d'être devant vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Salvatore Cavalleri, le deuxième Salvatore de la paroisse. Alors, il y a quelque chose de spécial ce matin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais du commencement jusqu'à la prédication, ce sont les Siciliens hein, qui ont mené la barque. Hein. La Sicile à la présidence, ça manque. Hein. L'Italie devrait copier sur Glen aujourd'hui. Hein. Alors, la Sainte Seine, par Paolo, et puis un autre Sicilien, pas des moindres, puisqu'il s'appelle Salvatore aussi, hein. Deux Salvatore. En Sicilien, on dit un Salvatore partout, c'est bien, mais quand il n'y en a pas, c'est encore mieux. Hein. Alors ici, vous en avez deux, c'est bien. J'avais, depuis le début de la semaine, donc je devais normalement, d'après mon calendrier, mon agenda, je devais aller prêcher à Malmedy. Je sais pas, quand Jacques m'a demandé d'aller prêcher, j'ai pensé directement à Malmedy et j'ai inscrit « Prédication Malmedy ». Et puis, mercredi, Paolo me dit « Mais tu prêches à Glen dimanche ?» Je dis « Bon, je crois qu'il y a quelqu'un de nous deux qui se trompe. Hein. Entre ceux-ci là, on ne se trompe pas, hein, c'est pas ça. » Et puis, le lendemain, j'ai téléphoné à Jacques, et alors, lui, en tant que bon pasteur, notamment, il a pris son agenda et il a vu que c'était à mon tour de prêcher aujourd'hui ici. Et c'était un honneur d'être devant vous. Le texte que nous allons lire, parce qu'il y en a, il y a plusieurs textes, mais le premier, quelques versets, donc deux versets, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 3, des versets 9 à 11. Le texte dit ceci, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » J'ai une petite anecdote que j'ai vue sur un de mes mails. Vous savez que des fois les mails c'est intéressant, on peut avoir de très bons messages. C'est quelqu'un qui m'avait envoyé une petite histoire. Ce sont des pratiques qui se faisaient chez les Cherokees, donc les Indiens Cherokees. Le passage de l'enfance à l'adulte. Alors, le papa était fier de voir son fils arriver à l'âge où il doit changer d'attitude, de prendre ses responsabilités. Alors, il l'emmène dans les bois, bien, je ne sais pas, ils ont peut-être voyagé deux jours, hein, pour bien montrer qu'ils étaient dans la forêt. Et le père, en parlant avec le fils, lui dit, voilà, maintenant, tu vas être seul, assis, sur un tronc d'arbre, et tu vas passer toute la nuit avec les yeux bandés. Tu ne sauras même pas, tu ne sauras rien voir, de toute façon, la nuit, il fait noir, mais tu ne sauras rien voir et tu vas peut-être traverser toutes sortes de choses qui vont te passer par la tête, mais tu devras rester sur le tronc en écoutant la nature. Et voilà le papa qui met le bandeau sur les yeux de l'enfant, de l'adolescent, et il l'assied sur le tronc d'arbre et il y a un silence qui se fait. Et l'enfant commence à entendre toutes sortes de petits bruits, hein, le vent dans les branchages, et peut-être qu'il a commencé à frissonner, hein, frissonner de peur, et puis il a surmonté cette peur, et puis il a peut-être frissonné de froid, et puis il a surmonté ce froid. Et au fur et à mesure que les heures passaient, dans sa tête, il devait se dire, mais quand est-ce qu'on va m'enlever ce bandeau? Quand est-ce que je vais montrer vraiment que j'ai vaincu mon adolescence et que je deviens un homme responsable? Et puis, après quelques heures d'angoisse comme ça, son père vient et lui défait le bandeau, et lui dit « Félicitations mon fils, tu as réussi le passage de l'adolescence au statut d'homme. » Et le fils était fier, il dit « J'ai bien réussi papa, t'as vu, hein, seul. Hein. » Et le père lui dit « Tu n'étais pas seul mon fils, parce que j'étais à côté de toi. » Pendant tout ce passage, l'enfant croyait qu'il était seul. Et le père était là. Est-ce que ça ne nous fait pas penser que souvent on pense qu'on est seul dans les moments de difficulté, d'intenses difficultés, que dis-je, les terribles difficultés par lesquelles nous passons, et nous oublions que le Père est là, qu'il est notre consolateur. Un petit peu comme les disciples quand ils ont traversé le lac de Galilée. Hein. Or, vous savez, quand on voit le lac, on dirait un miroir tellement il est plat. Hein. Mais quand la tempête arrive, en moins de temps qu'il faut pour le dire, il y a des vagues de 2-3 mètres. Hein, et Jésus dormait à la poupe du bateau. Et alors on a dû le réveiller. Mais c'est pas là mon propos ce matin. C'est le mot « Nous sommes des ouvriers avec Dieu ». Alors, dans le mot « ouvrier », il y a le mot œuvre, hein, un ouvrage, un ouvrier, c'est quelqu'un qui fait un ouvrage. Nous avons, nous en tant qu'ouvriers, hommes de Dieu, hommes ou femmes de Dieu, nous avons à créer des œuvres que Dieu nous donne de faire. Nous ne sommes pas là pour les beaux yeux de la princesse, nous sommes là parce que Dieu nous a placés quelque part. Dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 10, il est écrit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Nous sommes sauvés par la foi. Plutôt, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est la foi qui nous permet de voir la grâce qui nous est faite. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas de nous que ça vient, c'est un don de Dieu. Et quand on a un don de quelqu'un, la première chose à faire, c'est de dire merci. Est-ce que tous les jours, nous disons merci à Dieu? L'autre jour, j'avais expliqué, c'était au cours de l'étude biblique, que dans la tradition juive, quand on se lève le matin et qu'on sort du lit, qu'on met les deux pieds par terre, il faut attendre 12 secondes. Et ce sont les 12 secondes les plus importantes de la journée, parce que c'est le moment où le corps change de position et le sang commence à circuler d'une autre façon. Et alors, c'est un petit conseil qui m'était donné dans un petit livre, c'est que pendant 12 secondes, les gens prient et remercient Dieu pour la journée qu'il place devant nous. Oui, il vient de nous faire passer une nuit dans le fond, hein. Donc il y en a qui meurent pendant qu'ils dorment. Hein. Donc nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, et puis au moment où nous nous éveillons, disons, Seigneur, merci pour ta lumière. Merci de ce que ce matin, je peux te dire merci. Parce que les morts ne savent plus rien dire. Mais nous qui sommes vivants, apprenons à dire, Seigneur, merci pour la journée que tu places devant moi. Ça prend 12 secondes. C'est pas long, hein. Mais ça peut changer toute une journée. Ça peut changer votre façon de travailler de la journée. En sachant que Dieu est là et qu'il veut vous donner le courage. Encore un mot, hein? Courage. Dans le mot courage, il y a le mot cœur. En wallon, on dit, nous avons au cours, hein? Nous avons un cœur. Donc le courage, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. Quand on est découragé, c'est qu'on a enlevé le cœur de l'ouvrage et on n'est plus rien. On est raplapla. Hein? Mais ce que Dieu veut, c'est nous rendre victorieux. Il veut que nous soyons les témoins là où il nous place. savez, quand Jésus a envoyé ses disciples, il a dit, allez par tout le monde, en commençant par Jérusalem, hein, par la Samarie, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les disciples devaient d'abord être témoins à Jérusalem. Jésus veut que nous soyons des témoins là où il nous a placés. Si nous voulons former un nouveau foyer, sachez que Dieu veut être au milieu des jeunes qui s'engagent à quelque chose. Il veut être le centre de gravité. Et si le centre est déplacé, eh bien, patatras, ça tombe d'un côté ou de l'autre. Soyons conscients que l'œuvre, l'ouvrage que le Seigneur veut que nous fassions, c'est une œuvre excellente. Quand on ne devrait pas avoir peur de dire que pour le Seigneur, nous faisons une œuvre d'art, parce que nous devenons des artisans. Nous devenons des artisans de l'évangile, de l'évangélisation. Aujourd'hui, Jacques et Amal Mehdi, il y en a un qui a beaucoup de chance, il est envoyé, il est au Burkina Faso, hein, Michael. Et hier soir, je lui ai envoyé un petit encouragement en lui disant que le Seigneur, que le Seigneur le garde et le protège et lui donne beaucoup de force dans sa prédication. Nous avons notre frère Marc, qui, je pense, est à Grasse-Ologne, hein, dans la communauté évangélique à Grasse-Ologne. Nous avons ici un potentiel d'évangélistes. Nous avons ici un potentiel de personnes qui sont capables d'œuvrer, donc de faire une œuvre pour le Seigneur. Et nous ne devrions pas être de ceux qui nous contentons seulement de faire quelque chose et de dire « Ah, j'ai fait !» Ne soyons jamais contents de ce que nous faisons pour le Seigneur. Parce que le Seigneur n'a pas hésité une seule seconde à venir sur la terre. Parce que dans les psaumes, il est écrit « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Le Seigneur, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut que nous qui sommes son œuvre, son ouvrage, produit de l'artisanat de Dieu, nous puissions créer autour de nous des œuvres parfaites, des œuvres dont nous n'avons pas à rougir. Parce que quand nous sommes des ouvriers pour le Seigneur, nous sommes avec lui sur le terrain. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'apôtre Paul n'a pas peur de dire « J'ai posé le fondement, pas n'importe comment, comme un sage architecte. » Ça veut dire que quand on se convertit, « Ah, merci Seigneur, on a des âmes qui se sont données au Seigneur. » Mais ce n'est pas tout. Nous devons continuer à persévérer, à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de savoir que tu ne me laisses pas seul. Que jour après jour, je peux compter sur toi. Aide-moi à être un bâtisseur de paix, un bâtisseur d'amour. Que tous ceux qui sont autour de moi puissent rayonner de ta joie. » Est-ce que ceux qui nous entourent peuvent rendre un bon témoignage de nous? Est-ce qu'ils peuvent dire, un tel, j'allais dire Salvatore, un tel, c'est vraiment une œuvre de Dieu. C'est un bel ouvrage que Dieu a fait. C'est un vrai ouvrage que le Seigneur est en train de peaufiner, qu'il est en train de continuer. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Ce n'est pas seulement lors des campagnes d'évangélisation qu'on doit voir les gens se mobiliser. Ah si, il faut, naturellement. Mais c'est tout au long de la semaine. Dieu nous prépare un terrain. Au chapitre 2, verset 10 de Éphésiens, il est bien dit, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu nous laisse au hasard comme ça. » Non, que Dieu a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. Nous devons prendre à cœur le travail que Dieu nous donne. Le mot travail, j'ai regardé dans le dictionnaire, hein, étymologique, parce que j'aime bien les mots. Travail, pour ça que je n'ai pas mis « nous sommes des travailleurs avec Dieu ». Parce que travailler, ça veut dire s'épuiser. C'est se donner de la fatigue à quelque chose. C'est vraiment arriver à un moment où on ne peut plus, on est fatigué et on rentre à la maison, on n'a plus le courage de rien faire. Mais nous sommes des ouvriers parce que nous sommes des artisans. Un artisan, il est toujours fier de son œuvre. Et à la limite, il essaye toujours de peaufiner hein, son œuvre. Je ne sais pas, je pense que je l'ai déjà dit, mais il y a tellement longtemps, j'ai vu une œuvre de Michel-Ange dans un musée en Italie, et il a été écrit « œuvre inachevée ». Alors, j'étais avec mon fils et je me suis un petit peu éloigné, je dis « misère, si elle est inachevée, qu'est-ce que ça doit être une œuvre achevée ?» Et puis, j'ai fait quelque chose que je ne vous conseille pas de faire, j'ai pris mes doigts et j'ai passé sur l'œuvre. Et puis j'ai lu après ce qui était écrit en dessous, Michel-Ange, jusqu'au moment de sa mort, était en train de poncer son œuvre avec des papiers de différentes qualités, parce que pour lui, son œuvre n'était pas comme il voulait qu'elle soit. Il dit, tant que je vis, mon œuvre doit continuer à être travaillée. Combien de fois nous faisons quelque chose et puis nous disons, allez, adieu les amis, j'ai fait mon travail. Non, parce que nous devons faire l'œuvre d'évangéliste. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, au verset 2, dit une chose qui m'a un petit peu choqué en le lisant. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Prenez garde aux chiens. J'espère que ce matin, j'en connais une grosse partie de l'Assemblée, mais j'espère qu'il n'y a pas des chiens ici, des gens qui sont insolents, impertinents. Impertinent, ça veut dire qu'on a un enseignement et on dit, ben ça, je le mets dans ma poche parce que je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie sans Dieu. L'impertinence, c'est ça. La pertinence, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui se dit, Seigneur, tu me mets dans une assemblée, tu m'as permis un jour de lever ma main, ou bien, comme moi, j'étais sur mon lit, donc j'ai pas su lever ma main, parce que j'étais en train de lire, il fallait bien mes deux mains pour lire, pour tenir le livre, mais le cœur a accepté le Seigneur. Le cœur s'est ouvert, et j'ai laissé entrer le Seigneur dans ma vie. C'était pas une réunion d'évangélisation. C'était du un à un avec le Créateur, avec le Père Céleste. Et je lui ai dit, je veux t'accepter comme mon Père, je veux être ton enfant et faire ce que tu me diras de faire. Alors ça nécessite quelque chose. Hein. On prend l'engagement de suivre le Seigneur, mais je crois que nous devrions continuellement avoir les yeux plongés dans la parole de Dieu. Ah, vous savez, je suis des cours d'hébreu, pour le moment, c'est pas pour me vanter, mais mes collègues qui sont avec moi, il y a des prêtres et des religieuses. Alors, la première soirée peut-être que j'avais fait, que j'étais avec eux, donc c'est la première fois que je refaisais un peu d'hébreu, il y a un monsieur qui se tourne vers moi, il fait, vous savez, qui me dit, c'est bien la Bible, mais vous savez, la Genèse, et puis dans, beaucoup de choses dans la Bible, ce sont des histoires, ce sont des fables qui sont racontées pour nous montrer certaines choses. Ah, je dis, vous savez, moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Je crois que la parole de Dieu est la vérité, de la première lettre à la dernière, même si je ne comprends pas tout. Hein. Vous savez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir comment il a fait? Quand vous allez au cinéma ou bien à l'opéra et que vous êtes là assis, que vous voyez le rideau qui se lève, qu'est-ce qu'on voit? On voit un décor. Et puis les hommes, les femmes, les actrices et les acteurs sont mis dans le décor qui est mis. Alors je dis, vous savez, moi, quand je suis né, j'ai été placé dans le décor directement. Je n'ai pas besoin de savoir comment il a été fait le décor. Mais je sais une chose, c'est qu'on doit l'entretenir. Et je suis de ceux qui croient que tout ce que la Bible dit est la parole de Dieu. Il s'est retourné et puis j'ai appris que c'était un prêtre. Alors, comment voulons-nous? Bon, c'est pas une critique, hein, parce que il y a dans les milieux protestants, il y en a qui ne sont pas beaucoup mieux, hein. La parole de Dieu n'est pas une série de mythes. Vous savez, si c'était un livre avec des mythes, on l'ouvrirait, les mythes partiraient, et on n'aurait que des trous dans la Bible. Hein? Parce que tout ce qui est mythe serait parti, hein, on ferait ça. Mais j'ai même vu, j'ai assisté à ça, c'est un monsieur qui s'appelait Paul Antoine, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Hein? Et alors, à un camp, il avait pris une grosse Bible, en fait c'était un bulletin téléphonique. Hein? Et alors, il a commencé, il avait une pompe, vous savez, quoi, pour chasser les mythes. Hein? Alors, il a mis la Bible, il avait mis dessus Bible, il avait mis, et puis il commence à chasser les mythes. Et puis, il a ouvert, il a dit, « Oh, ouais, mais ça, écoute, c'est pas... » Il a déchiré une page. Hein? Et puis, il dit, « Ouais, mais ça, c'est pas possible que ce soit Jésus qui l'ait dit. Hein? » Alors, il déchire la page. Pour finir, vous savez ce qui restait? Il ne restait que la couverture. Si nous mettons de côté la parole qui est la vérité, nous sommes des impertinents, nous sommes des chiens, parce que nous déchirons, nous détruisons ce que Dieu veut construire. Et il parle aussi des mauvais ouvriers. Il y a des gens qui font des belles œuvres, et en fait ce sont des copies. Et ils font des œuvres qui paraissent belles, mais ils mettent quelque chose pour camoufler. Donc en fait ce sont des ouvriers camoufleurs. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de Michel-Ange. Je suis allé dans la carrière où Michel-Ange avait été prendre ses marbres, tout près de Massa e Carrara, en Italie, tout près de Pise. Et là, on voit des carrières pleines de marbre, avec un beau marbre rose, du blanc, avec des reflets bleus. Et puis, il y avait des gens qui achetaient du marbre à bon marché, le marbre qui venait d'être décroché avant d'arriver à la bonne veine. Et alors, c'était un marbre plein de fissures. Et vous avez déjà entendu parler du mot sincère. Hein? Être sincère, ça veut dire, on dit la vérité. Hein? Eh bien, Michel-Ange et toutes les personnes, les vrais artistes, en dessous de leurs œuvres, ils mettaient sincera. Donc ça veut dire sans cire. Donc le mot sincère veut dire sans cire. Parce que les autres, pour camoufler les veines, ils mettaient de la cire et puis ils polissaient. Et ça ressemblait à une œuvre, une belle œuvre, mais en fait c'était un camouflage. C'était une trahison de l'œuvre. Donc l'artisan travaille avec du bon matériau, avec du bon matériel. Je suis persuadé que si je demandais à René de faire quelque chose avec de la gnognotte, eh bien, il ne saurait pas faire quelque chose de solide. Hein. Mais si on lui donne les moyens, eh bien, il va faire quelque chose de solide. Nous, de même, si nous nous confions, si nous nous fions à ce qu'il y a dans la parole de Dieu, nous allons être sincères. Parce que un chrétien, c'est quelqu'un qui est tellement ouvert que si on veut un petit peu aller gratter dans sa vie, ben, on peut le détruire directement. Parce qu'il n'est pas autre que ce qu'il est. Est-ce que nous avons peur de ce que les autres vont dire? Est-ce que nous avons peur de plaire au Seigneur et de dire, Seigneur, enlève la cire qui a été mise par mon incrédulité peut-être, et remplis toi-même de ce matériau, restaure-moi, fais de moi un vase d'honneur. L'apôtre Paul, encore, lui, parce que c'est surtout de lui que j'ai pris les passages, hein, dans 2 Timothée, pardon, chapitre 2, verset 15, il dit à son ami et jeune frère Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispose droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Ça veut dire quoi, l'épreuve? L'épreuve peut être douloureuse, elle peut avoir différentes formes chez l'être humain. Elle peut être un examen de passage, elle peut être quelque chose de douloureux dans notre corps, dans notre état mental. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'à travers cette épreuve, le vrai puisse apparaître. Savez-vous, hein, vous-même vous le savez, il n'y a pas besoin de faire des dessins, l'or, quand on le trouve dans les cailloux, hein, dans la roche, eh bien, il a l'état impur. Pour qu'il soit pur, il faut qu'il passe différentes épreuves. Donc, on le fait d'abord fondre avec la roche, et puis on récolte le minerai, et puis il est refondu pour que les scories soient enlevées. Et plus il est purifié, plus il est nettoyé, eh bien l'or devient tendre. Il devient tellement malléable dans les mains de celui qui veut faire une œuvre d'art. Et le Seigneur veut que nous soyons cette œuvre d'art, que nous soyons épurés, que nous soyons éprouvés, mais pas au-delà de nos forces. C'est ce que l'apôtre Paul dit, hein. Il permet la tentation, l'épreuve, mais jamais au-delà de nos forces. Parce que le Seigneur, comme le jeune Cherokee, le Seigneur est là, il est présent. Il est notre bon berger. Il est celui qui nous conduit dans les verts pâturages. Il est celui qui nous restaure jour après jour, qui place devant nous une table en face de nos adversaires. Et même, il va même plus loin, il loin d'huile. Ma tête et ma coupe débordent de bénédictions. Je crois que c'est tout un programme que nous ne pourrions jamais voir si nous n'avions pas cette confiance en Dieu. Si nous n'étions pas des enfants de Dieu, nous serions comme ceux qui détruisent. Il y a un proverbe qui dit, celui qui ne construit pas est frère de celui qui détruit. Est-ce que nous voulons vraiment faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous qui sommes déjà une œuvre de Dieu, puisque Dieu nous a transformés, il ne va pas faire de quelqu'un qui est laid, hein, il n'y a pas de laid personne ici, hein, mais quelqu'un qui a des défauts physiques, il ne va pas faire quelqu'un pimpant neuf, mais c'est le cœur que Dieu veut choisir. Alors, hier, j'ai parlé avec mon ami Salvatore, encore en Sicile. Hein. Donc, on était sur Skype, on a discuté pendant... je me suis payé une bonne tranche de la soirée, hier soir. Il fait bon, là. Mais enfin, on a discuté de certaines choses, et je lui ai envoyé un petit message. C'est un monsieur qui n'a ni jambes ni bras. On pourrait se dire, mais on aurait dû le tuer à la naissance, hein. J'entends des personnes dire ça. Un être comme ça, mais ça ne devrait pas continuer à vivre. Hein. Excusez-moi, mais ceux qui sont vraiment handicapés, ils devraient être mis de côté. Mais non. Ce frère, parce qu'il a dû donner son cœur, hein, il était handicapé, mais pas de cœur, ni de tête. Hein, donc il peut rechercher la sagesse que Dieu donne à tous, simplement et sans reproche. Et on le met sur la table. Et il commence à prêcher l'amour de Dieu. Ah ouais. Ah ouais. Sans bras, sans jambes. Pourtant, le Seigneur a dit, allez par tout le monde. Eh bien, on le prend. Je ne sais pas si on le prend sous le bras. Hein, mais on l'amène là où il est invité. Et il raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. J'ai oublié le nom de ce bonhomme-là. Mais... si vous voulez, je pourrais vous donner ces coordonnées après. Pas aujourd'hui, hein, parce que je ne les ai pas avec moi. Mais Dieu veut nous utiliser si nous lui laissons l'occasion de remplir notre cœur. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il a un cœur et une tête? Parce que dans la tête, il y a la bouche et les oreilles. Hein. Vous savez que si on prend les deux oreilles, on les met une à côté de l'autre, ça forme un cœur. Dieu met un cœur là et un cœur dans notre tête, pour que nous puissions annoncer l'Évangile Et en plus, nous avons des oreilles à l'écoute. Nous avons un cœur qui peut se remplir. Et Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous avons quelque chose dans le cœur, notre bouche va parler. N'ayons pas peur de proclamer ce que le Seigneur veut que nous disions. Parce que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées devant nous pour que nous les pratiquions. Si nous ne le faisons pas, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Et Jésus va même plus loin, il dit, si vous ne dites rien, les pierres vont crier et les pierres vont annoncer la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas à notre honte si nous nous taisons? Ceux qui n'auraient pas encore pris cette décision d'ouvrir leur cœur pour que le Seigneur fasse son œuvre, il peut transformer. Hein? Vous savez, je vais presque dire que Dieu, en tant qu'artisan, est le meilleur bricoleur que nous puissions avoir. Parce que de quelque chose qui est perdu, il en fait quelque chose pour l'éternité. Quelque chose qui va lui être agréable à voir. Jésus est mort pour nos imperfections. Il est mort pour toutes les injures que nous avons pu dire, pour toutes les choses mauvaises que nous avons pu faire, pour toutes les œuvres cassées que nous avons réalisées dans notre vie. Et combien de personnes ont des histoires brisées dans leur vie. Combien de choses ils ont cassées. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah, dès que je touche quelque chose, ça casse. Hein? Alors c'est pour ça qu'il ne faut rien. Mais non, en tant qu'ouvrier de Dieu, nous devons apprendre. Apprendre. Et je dirais aux jeunes chrétiens, ceux qui ont accepté le Seigneur tout récemment, ne laissez pas les autres de l'extérieur vous décourager. Essayez de trouver quelqu'un ici dans l'église, quelqu'un qui pourrait vous aider à grandir. Au début de ma conversion, j'ai eu le bonheur, je ne vais pas parler de chance, le bonheur d'avoir quelqu'un qui m'a suivi. Il m'a suivi pendant un certain temps. Et tous les samedis, j'avais envie, mais c'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille chez lui le matin, vers 8h30, j'allais chez lui parce que j'avais un cours à 9h15. Et tous les samedis, eh bien, nous avions un moment ensemble de la parole de Dieu. Il m'encourageait. Il mettait du cœur à l'ouvrage. Hein? Et de fil en aiguille, le Seigneur a continué à faire son œuvre. Et quand je regarde l'œuvre que Dieu a faite à travers moi ou dans moi, eh bien, je ne peux dire qu'une chose, merci. Merci parce que là où je vais, je n'ai pas besoin d'avoir une grande intelligence, mais il suffit d'ouvrir la bouche et la parole de Dieu qui a rempli mon cœur déborde. Et c'est avec joie que je peux montrer que le Seigneur est bon. Et vous savez, je dis souvent ça parce que c'est quelque chose pour ne pas trop décourager les nouveaux convertis. Hein. Ça fait 43 ans que je suis au Seigneur. Le Seigneur m'apprend toujours encore aujourd'hui. Le jour où je dirais, ben, je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin d'apprendre rien du tout, eh bien, je suis un homme mort. Dieu n'a que faire d'hommes qui abandonnent, des femmes qui abandonnent. Il veut des gens qui aillent de l'avant, qui foncent. À part Alphonse, hein? Non, des gens qui foncent. Mais on ne peut pas foncer n'importe comment. Il faut que Dieu mette son frein, il faut que nous nous laissions diriger par le Seigneur. Laissons-nous modeler. J'ai eu l'occasion une fois de voir dans un... Comment est-ce que je vais dire ça? Une poterie. Une potière qui est en train de faire un vase. Et alors elle a mis l'argile sur son tour, elle a commencé à le faire tourner, et avec les deux mains... moi je me dis, bon, quelle heure. Alors elle m'a dit, tu vois, eh bien, toi, pour toi elle est belle, pas pour moi. Patch, hein? Je me suis dit, mais c'est atroce. Parce que je m'étais à la place de la terre, là, hein, qui est en train d'être tripotée, triturée. Et elle me dit, mais tu sais, en le faisant, je chasse l'air, je chasse toutes les impuretés qu'il pourrait encore y avoir. Et je veux quelque chose de bien, parfait. Et je terminerai par un verset Là, je ne l'ai pas noté parce que je l'ai eu ici pendant que j'étais assis. C'est dans 1 Corinthiens 15, 58, où l'apôtre Paul, encore lui, dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et c'est mon encouragement ce matin, c'est que nous puissions, chacun et chacune, ne pas nous lasser de faire du bien autour de nous, mais de continuer à laisser le Seigneur nous transformer, nous façonner à son image. Prions. Seigneur, quelle joie d'être à ton service et de pouvoir œuvrer avec toi, parce que nous ne sommes pas seuls pour faire quelque chose, mais tu es là. Je voudrais te remercier parce que ce matin, tu m'encourages à aller vers mes frères et mes sœurs et leur dire « Bon courage, bon vent avec le Seigneur. » Que le Seigneur nous garde pendant ces moments et que nous puissions lui ouvrir notre cœur tout grand et le laisser pénétrer, laisser notre cœur déborder de ses bontés, de ses largesses, de ses bénédictions, de son Saint-Esprit, parce que c'est son Esprit qui nous montrera que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui appartenons et que nous sommes scellés pour la gloire. Amen.